Rien n'est plus grand que son amour. Vous savez que le motif de la création de Dieu, Dieu voulait révéler son amour. Il voulait manifester son amour à des créatures pour que ces créatures-là, en tâtonnant, ils commencent à chercher Dieu, puis ils découvrent Dieu, puis on comprend dans tout cela, quand on lit la Bible, l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, dans ce fait qu'on était tous des pécheurs, puis il a quand même envoyé son Fils venir nous racheter, puis il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Il n'y a pas de plus grand amour. Tout ce qu'on voit dans l'immensité de la création, là, ça démontre son intérêt pour nous. Sa puissance qui a été mise à l'œuvre pour créer toute chose, puis là, on est là-dessus, tout petit, hein, on est une poussière, même pas une poussière à grandeur de la planète, puis à grandeur de la création. C'est comme si on n'existe pas, puis il prend soin de nous. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il se souvient de nous. Il veut développer une relation personnelle avec nous, puis il est attentionné comme un père ou même une mère prendrait soin de ses enfants. Puis il nous aime. C'est un Dieu-là, il a créé tout ce qu'on voit. On est conscient de sa grandeur, sa puissance. Puis là-dedans, on découvre aussi son amour. Il a créé des créatures pour nous aimer. C'est quelque chose. Il n'y a rien qui est plus grand que son amour. Tu sais, des fois, en tant qu'humain, on ferait une petite commission pour quelqu'un, là. Puis l'autre, tu dis, wow, il prend peine de se déplacer pour venir me chercher, pour m'emmener à l'église, mettons. Là, on dit, wow, c'est un bon gars. Mais si Dieu prend la peine de créer la création entière pour nous, wow, pour nous donner la vie puis se révéler à nous, wow, il en a fait des choses pour nous. Puis il nous aime individuellement. Merci Seigneur. Rien n'est plus grand que son amour qui a été manifesté dans la création, mais aussi en nous donnant la vie, mais aussi à travers son Fils. Aujourd'hui, on commence une nouvelle étude sur le royaume de Dieu. On va commencer à comprendre une pensée qui est écrite dans la parole de Dieu. On lit ça souvent, mais on sans en comprendre nécessairement la profondeur, que Dieu est un royaume. C'est ce royaume-là qu'on va parler. On va faire une étude sur plusieurs semaines pour voir tous les aspects que ce que Dieu a révélé à propos de son royaume. Parce que nous, en tant qu'humains, là, on voit pas ça. Humainement parlant, on voit que le royaume terrestre, puis les royaumes, le Canada, les États-Unis, l'Europe, différents royaumes humains, c'est juste ça qu'on voit humainement parlant. On voit les royaumes humains. Mais Dieu il a un royaume, puis il veut nous faire comprendre là-dedans qu'on participe, on est participant de ce royaume-là. Puis ce royaume-là, il y a toutes sortes de choses qu'on doit apprendre là-dessus, parce que quand tu fais partie de ce royaume-là, il y a aussi des règles. Puis on va voir dans les différents points qu'on va étudier ensemble que c'est tout bien coordonné, ce royaume-là. Puis il est géré dans un régime, comme on voit dans, par exemple, le Canada, qu'il y a le premier ministre, il y a des ministres, il y a tout un système de hiérarchie, puis il y a des lois, puis il y a tout un système de choses permises, de choses non permises, mais dans le royaume de Dieu, c'est la même affaire. On parle pas d'un lieu spécifique sur cette terre quand on parle du royaume de Dieu. La Bible, dans Matthieu, lui, il dit le royaume des cieux, c'est synonyme. Quand on parle du royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est synonyme, c'est la même affaire. Parce que les mêmes versets dans Matthieu qui dit royaume des cieux, tu retrouves de ces versets-là en disant royaume de Dieu. C'est une domination qui est exercée par le Créateur, puis qui est confiée à ses serviteurs. Parce qu'il y a différents aspects dans tout ça. On va voir que Dieu est dans son royaume. Présentement, ce qui est invisible aux yeux humains, c'est pas visible humainement parlant. Parce que nous, on est habitués de regarder que les royaumes de la terre. Mais tu parles du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Il y a un immense royaume, puis il y a plein de créatures qui ont été créées par Dieu là-dedans. Puis il y a des hiérarchies, puis il y a des lois, puis il y a toutes sortes d'affaires qui régissent. Puis, comme la Bible elle dit, tu le vois dans Matthieu, le royaume de Dieu est venu vers vous, mais il est venu vers nous. On parle de quoi quand on parle du royaume de Dieu? C'est ça qu'on va, éplucher. Comme je disais tantôt, le royaume de Dieu est pour le moment invisible pour ceux de cette terre, mais bien visible pour les habitants du ciel. Eux autres, ils étaient là bien avant nous autres. Parce que la rébellion a commencé avant, la rébellion dans ce royaume-là, a commencé avant la création terrestre. Il était déjà rebelle, Satan, quand il était rendu ici. Fait que, il s'est passé des choses en haut, puis il se passe des choses sur cette terre qui viennent du royaume de Dieu. C'est ça qu'on va, apprendre. Puis un jour, bien, ce royaume-là, il va être visible par tous. Puis toutes les nations de la terre vont y affluer pour aller rendre la gloire à celui qui est le celui qui règne dans ce royaume-là pour l'éternité. Le règne de ce royaume-là est théocratique. Ici, on parle de différents types de royaumes. Là. Il y a des royaumes que c'est établi sur un roi qui règne une monarchie, là, puis sur la terre que les hommes règnent. Mais nous, on parle du royaume de Dieu. C'est un royaume qui est théocratique. Quand on parle de théocratique, c'est un gouvernement dont le titulaire de la souveraineté est divin. Celui qui détient le titre de comme autorité supérieure, l'autorité suprême, c'est Dieu. Quand on dit théocratique, ça veut dire, c'est formé de deux mots, théos puis kratos. Théos veut dire Dieu, puis kratos veut dire pouvoir. Le pouvoir, il est à Dieu dans ce royaume-là. C'est Dieu qui règne sur son royaume. Ça, c'est un mot qui n'était pas nécessairement écrit comme textuel dans la Bible. La théocratie, c'est pas écrit dans la Bible. C'est un mot qui est inventé par rapport que avant, le monde comprenait pas ça de définir qu'il y a un royaume qui règne, mais le royaume est invisible, c'est Dieu. Les humains s'en font des royaumes, mettent des pharaons, mettent des rois, des seigneurs tout sur le royaume, mais Dieu, lui, c'est lui qui règne dans son royaume à lui. Ça peut pas être un autre que Dieu, puis j'allais voir pourquoi tantôt. Le terme théocratie s'est inventé par Flavius Joseph. Lui, c'est un historien qui existait dans l'époque de Jésus. Puis il a désigné ça comme sur un sens particulier, que c'est l'idée que Dieu gouverne. Puis afin de ça l'amène l'idée de justifier un désintérêt pour les croyants de s'intéresser à la politique humaine. Parce que pour nous, notre roi, c'est Dieu. Sauf qu'on fait partie de ce règne-là ici aussi, les règnes terrestres. Puis c'est pour ça que ce roi-là établit des lois dans son royaume à lui, pour indiquer à ses serviteurs de quand même de soumettre aux lois qui sont établies sous les autorités présentes locales. Puis, ça nous dit dans ce sens-là que l'idée de théocratie, ça implique que l'humain, quand il agit, dans toute son ampleur, il reçoit la norme du divin. Ça veut dire que l'humain qui est géré par le système théocratique, c'est pour lui. Il veut obéir à Dieu, qui est l'autorité. Il reconnaît que c'est Dieu qui est l'autorité supérieure au-dessus des autorités qui sont ici. Mais, comme je disais tantôt, il y a des règles de Dieu pour aussi pendant le temps qu'on est ici. On reçoit notre norme de vie là, du divin. On ne suit pas les morales humaines, on ne suit pas les choses, même s'il y a des choses qui sont permises par les humains. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont régis par le régime théocratique, par Dieu lui-même, ça ne veut pas dire qu'on va suivre les lois humaines, même si c'est des permissions à certaines affaires que Dieu ne veut pas. On va commencer en premier à dire « Dieu veux-tu? » C'est ça qui est la question. Au contraire, dans le 2000 ans que Flavius Joseph, il a comme défini c'est quoi la théocratie ou ce que c'est Dieu qui règne. Mais depuis le 19e siècle, le terme théocratique est plus souvent employé pour désigner des régimes politiques fondés sur des principes religieux ou gouvernés par des religieux. Parce qu'aujourd'hui, les religions disent qu'ils sont théocratiques, que ça, ils fonctionnent selon leur Dieu, mais là, c'est plus le Dieu de la Bible ou créateur de l'univers, c'est la religion qui s'est inventé un Dieu, puis qui s'est formé son propre Dieu, puis s'est formé ses propres lois. Fait que cette religion-là, ceux qui adhèrent à cette religion-là, ils sont gérés par les lois que les religieux ont inventées. Fait que depuis le 19e siècle, ils ont défini que les religions, ils marchent un régime théocratique aussi. Puis, c'est comme s'ils disent qu'ils suivent leur Dieu. Fait que chaque religion a son Dieu et ses lois. Ce qui fait la différence entre nous, nous, c'est pas nos lois qu'on a décidées, qu'on a gérées, c'est les lois de Dieu qui ont été révélées par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, aux prophètes, à Jésus, par Jésus, puis par les apôtres. On suit les lois de Dieu. Puis on change pas. En théorie, là, quelqu'un qui dit qu'il veut suivre Dieu, change pas ce qui est écrit là. Parce que ce qui est écrit là, c'est la révélation de Dieu. Là-dedans, tu as les pensées de Dieu, le vouloir de Dieu. C'est ce qu'il veut pas. C'est dans le Nouveau Testament, dans l'alliance qu'on a faite avec lui. C'est ça qu'on suit sans les changer. C'est pas notre religion. Comme dit la religion évangélique, a pas le droit de modifier cela. Pas plus qu'on accepte les autres religions, modifie les choses pour dire que ça vient de Dieu. On ne reconnaît pas l'autorité d'une autre religion quand ce n'est pas biblique. Si une religion dit il faut aimer ton prochain comme toi-même, mais c'est sûr qu'on va y croire parce que c'est la même chose que Jésus nous dit. Sauf que nous, c'est ce que Jésus dit. S'il nous demande de prier un mort, c'est sûr qu'on fera pas ça. Parce que nous, on suit pas les religions du monde, on suit ce que Dieu dit. Comment Dieu voit les choses, c'est lui notre autorité suprême. Le chef de ce royaume-là, le chef du royaume de Dieu, il possède une autorité et une puissance infinie. Je l'ai mentionné tantôt dans le verset, il est appelé le Tout-Puissant. Fait qu'on a, ça n'a rien à voir avec les gouvernements ou les royaumes humains qui sont gérés par des hommes mortels, des hommes qui sont nés, sont comme nous autres, ils mangent, puis ils dorment, puis ils font les mêmes choses que les autres, puis ils se pensent supérieurs, puis un jour ils vont disparaître. Nous, on est gérés par le Créateur de toutes choses, qui a toute puissance, puis qui est là de toute éternité. C'est lui qui est le chef absolu, puis que ça ne changera pas. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, ça nous dit, il se dit de lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. » Fait que le régime qu'on suit présentement, c'est pas d'un homme, ni par la volonté d'un homme, c'est selon la volonté du Tout-Puissant, celui qu'on va rencontrer à la fin de notre vie. On va tous comparaître devant le Créateur, celui qui a créé tout ce qui est là. Ça vous donne une idée, juste considérer la grandeur de la planète, puis qu'il a matérialisé ça juste en l'ordonnant, tout s'est matérialisé, puis tout ce qu'il y a dessus, puis comment est-ce que tout est parfait comme système pour créer la vie, ce Dieu-là, tout puissant, c'est lui qu'on va rencontrer à la fin. Il sait tout, il voit tout. Ce Dieu suprême-là, là, il voit tout, puisqu'il est partout. La Bible dit qu'il est omniprésent. Il n'y a pas un endroit que tu peux aller là qui n'est pas là. Il est sur la planète. Quand je vais être chez nous en train d'y parler, il est là. Puis un autre d'entre vous, chacun d'entre vous, quand vous allez y parler, il est là en même temps, il est toujours partout. Et dans le psaume 139, il dit, si je prends les ailes de l'aurore, puis je m'en vais à l'extrémité de la terre, il dit, là aussi, ta droite me saisira, puis elle me conduira. Puis il dit, si je vais dans le séjour des morts, tu vois là, si je monte aux cieux, il est là. Il a la capacité d'être partout en même temps. C'est un Dieu-là. Le Créateur, celui qui est le chef suprême du royaume de Dieu. Ça nous dit aussi qu'il sait tout. Il est omniscient. Tu peux pas compter une joke à Dieu, il sait déjà la réponse. Avant même que tu t'aies ouvert la bouche pour la prononcer, il sait déjà tout ce que tu étais pour dire. Il peut l'arrêter pareil, mais Dieu sait tout. Il n'y a pas rien sur nous qu'il ne sait pas, autant qu'il voit en profondeur jusqu'aux infimes atomes qui nous forment, puis toutes nos maladies, toutes nos souffrances, toutes nos malformations, tout ce qu'on a dans nous, notre vieillissement, tout ce qui se dégénère, il sait tout, puis il voit tout sur chacun de nous individuellement. Il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Quand Jésus a dit ça, c'est parce qu'il voulait nous rassurer sur le fait que Dieu sait tout. S'il y en a un qui tombe, il sait qu'il vient de tomber. Mais imaginez l'ensemble de la planète, comment est-ce qu'il y en a qui n'ont perdu des cheveux aujourd'hui? Il pourra vous dire le chiffre. Juste pour dire qu'il sait tout. Il sait le nombre total de molécules ou de particules ou d'atomes qu'il y a dans toute sa création. Il sait tout. Il n'y a rien qu'on peut cacher à Dieu. C'est ce Dieu-là qui est le chef suprême du royaume de Dieu. Il peut tout. Quand on dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, rien n'est impossible à Dieu. La limite qu'on a là, de s'imaginer de ce que Dieu pourra faire, c'est à cause de la faiblesse de notre imagination. On s'imagine pas qu'il pourra faire cela. Il peut tout. Il y a juste une chose qu'il peut pas faire. Il peut pas faire du mal, mais il y en a deux choses. Il peut... Hein? Oui, il nous reste libre aussi parce que c'est un choix, mais il aurait pu le faire qu'on soit tous des robots, mais il voulait des gens qui marchent par amour. Puis il trouvera jamais de quelqu'un plus grand que lui. Le reste, là, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Puis il dit, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a pas de limite. C'est nous qui s'en font des limites. À cause de notre faiblesse de foi. Fait que ce Dieu-là, il est appelé le Tout-Puissant. Ça veut dire que la puissance de tout faire, c'est lui qui est le chef suprême du royaume de Dieu. C'est son royaume à lui. En plus de ça, il a toujours existé, il existe, puis il existera pour toujours. Il est éternel. Il n'y a pas de commencement de jour, puis il n'y a pas de fin de jour non plus. Il est. C'est le même qui s'est présenté à Moïse à la montagne. Je suis celui qui suis. Je suis là, that's it. Il n'y a pas rien à chercher ailleurs. Il est là. Il n'y a jamais eu de commencement, il n'y a jamais de fin. Nous, on a de la misère à comprendre cela parce qu'on est limité avec la vie terrestre. Donc, on a toujours un commencement, pas une fin. Mais Dieu, là... Il était là avant l'univers qui soit créé, puis il va être là même après que l'univers va disparaître. Il est toujours là. Ce Dieu-là, c'est un grand roi qui règne dans le monde invisible. Là, on ne fera pas l'étude sur les anges aujourd'hui, mais on va en faire une éventuellement, parce que c'est dans mes projets, si Dieu le veut. Mais... Dans le monde invisible, il y a plein de choses que Dieu a créées. Puis des choses que nous, on ne voit pas, à part des petites idées que Dieu révèle dans la parole de Dieu. Mais il y a des milliards d'anges qui sont là. Il y a des archanges qui sont des chefs des anges. Il y a des chérubins qui sont des chefs de territoire, puis il y a des séraphins qui sont là pour chanter la gloire de Dieu, sans compter les êtres vivants, les 24 vieillards, puis sans compter aussi même l'autel plein Dieu, puis l'autel à part, les objets qui sont là, c'est comme tout est vivant dans le royaume des cieux. Puis ce Dieu-là, il a déjà tout créé cela avant de créer la vie terrestre, puis c'est son royaume qui est là depuis je sais pas combien de temps avant. Puis ils sont tous encore là maintenant, puis ils vont être encore là pour l'éternité, puisqu'un jour on va aller les rejoindre. Mais ce Dieu-là règne sur tout ce qu'il y a là. C'est lui le chef du ciel. On voit ça dans Apocalypse chapitre 7, verset 11, excusez. Il dit, « Et tous les anges tous les anges, puis on a une révélation dans l'Ancien Testament, des myriades, de milliers qui se tiennent dans sa présence. Ça, c'est des milliards d'anges, à part des archanges qui sont des chefs de bataillon de l'armée de Dieu, puis à part des autres, parce que dans le monde invisible, on va les boucher un peu plus plus tard, il y a des dominations, des autorités, des princes, puis il y a des esprits qui sont là. Mais ça, c'est dans le monde invisible, il y a le monde des ténèbres, puis nous, on est en train de parler du monde de Dieu, du royaume de Dieu. Puis il y en a une gang, il y a eu une rébellion quand même dans le ciel, puis qu'eux autres sont plus là, ils ont été chassés du royaume de Dieu quand Jésus-Christ a vaincu la mort et dit le prince de ce monde sera jeté dehors. Lui, ils l'ont sorti avec tous ceux qui le suivent. Ils ont été précipités sur la terre, puis il fait son ravage depuis ce temps-là. Là, présentement, c'est Dieu qui règne dans son ciel, puis il va amener les gens de la terre à s'assujettir à son autorité. Mais dans le ciel, il dit tous les anges se tenaient autour du trône, puis des vieillards, des quatre êtres vivants, puis ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ça démontre le Dieu qui est au contrôle et au pouvoir, il a toute autorité dans le ciel. Sauf qu'il les a laissés libres, eux autres aussi, puis il y en a une gang qui s'est rebellée. Mais ça, c'est une autre histoire. On continue avec l'idée que ce Dieu-là, qu'on veut connaître comme étant le chef suprême du royaume de Dieu, c'est Dieu. On est en train de définir un peu avec des versets pour comprendre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Ce Dieu-là détient l'autorité suprême au-dessus de tous les dieux. Ça, on voit ça dans le psaume 95, le verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Là, c'est sûr que dans la Bible, on dit, ouais, mais il n'y a pas d'autres dieux. Mais il y en a qui se font passer pour Dieu. Que ce soit les anges, parce que la Bible a dit, quand tu offres des prières et des services religieux à une statue, il dit, c'est pas à des statues que tu es en train de faire des sacrifices, il dit, c'est à des démons. Ces démons-là sont en arrière de la statue, fait que quand les gens font de l'idolâtrie, ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Ils pensent de prier Marie ou ils pensent de prier un saint qui est décédé. Ils sont en train de prier un autre Dieu qui est Satan, le diable, un démon. Fait qu'il y en a qui se font passer pour Dieu, puis ils sont pas Dieu. Mais ils se font passer pour Dieu, pour des dieux. Avec un D minuscule en français. En grec et en hébreu, ça n'existe pas, minuscule puis majuscule dans le mot Dieu. Ça n'existe pas. C'est nous qu'on a ça pour définir que Dieu avec un D majuscule, puis il y a des petits dieux avec un D minuscule. Mais eux autres, ils se font passer pour Dieu. Ils ont détourné l'attention des humains sur Dieu pour la tourner vers eux pour être adorés comme des dieux. Il y a aussi des rois qui se prennent pour des dieux. Le pharaon, il se prend pour un dieu. Puis il y a plein de peuples qui servent le roi là, de leur pays comme si ça serait un dieu, puis ils vont le prier, puis ils vont se mettre à genoux devant, puis ils vont le servir comme, puis il y a le pouvoir, il y a le droit sur la vie ou la mort sur ces sujets, puis le monde, ils sont comme, ils acceptent tout ça. C'est de même que leurs autorités sont gérées. Ils se font nommer comme des dieux. Ou que même nous autres, des fois, qu'il y a souvent des humains qui se pensent pour Dieu, là. Des fois, humainement parlant, on se pense supérieur aux autres. On se pense les dieux de quatre choses, là. Surtout les athlètes ou les vedettes à Hollywood. Ou un grand chanteur, là, on est tous portés, humainement parlant, à élever les hommes comme étant des dieux. Mais Dieu, le Dieu du royaume des cieux, il est plus grand que tous les dieux. C'est le vrai Dieu, le Tout-Puissant. C'est celui qui règne vraiment, vous allez voir, c'est celui qui règne vraiment sur tout ce qui existe. Amen. Le Dieu infini. Alléluia. Ce Dieu-là détient Non, ce Dieu-là tient toute chose dans sa main puissante. Il est, on l'a dit, il est tout puissant. Puis il tient toute chose dans sa main puissante. Dans le psaume 95, les versets 4 et 5, ça dit, « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite, puis la terre aussi. Ses mains l'ont formée. » C'est Dieu qui maintient toute chose en subsistance. S'il y a de quoi qui est encore là, puis ça se maintient là, c'est le Dieu, le chef suprême du royaume des cieux, qui maintient toute la vie terrestre, tout ce qui existe de matière qui est formée. C'est Dieu qui l'a formé, puis c'est Dieu qui tient tout ça dans ses mains. Ça vous donne-tu une idée de sa grandeur, de sa puissance? Dieu détient son autorité. Parce que là, il y en a qui peuvent revendiquer, oh, tu n'es pas le boss, toi, là. Ils vont essayer de dire que Dieu n'est pas le boss. Ils ne veulent pas flécher le genou devant lui. Nous, on l'a reconnu comme étant Dieu. On fléchit le genou devant le Créateur. Puis on l'aime en plus. Puis on reconnaît ses œuvres. Puis on reconnaît sa grandeur. Puis on le loue, puis on l'élève à cause de ce qu'il est. Puis c'est lui qu'on veut servir, qu'on aime, qu'on veut servir. Mais Dieu détient son autorité parce qu'il est le créateur de tout. Cela fait de lui le propriétaire de tout. De tout, quand on dit de tout, il est propriétaire de tout. Moi, j'ai acheté une maison à Beauharnois. Il est propriétaire du terrain. Je l'ai acheté au point de vue humain, mais Dieu, c'était à lui d'avance. C'est lui qui l'a créé, ce terrain-là. Puis l'arbre qui pousse, c'est à lui. Puis tout ce qui existe, le gazon, c'est à lui. Moi, je fais juste comme avoir le droit pendant X temps de pouvoir utiliser ce qui est là. Je vais mourir, puis j'aurai plus rien de ce qu'il y a là. Mais tout le monde, c'est de même. La chaise que vous avez là, là, on a peut-être payé à l'église où on l'a eu gratis. On s'est vraiment eu un deal. Le Seigneur nous a pourvu ce qu'on l'a eu gratis. Mais elle appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Même nos biens, puis même nos vies, on appartenait au Seigneur avant qu'on lui donne vraiment notre vie. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il est le propriétaire parce qu'il est le créateur. Il n'y a personne qui peut dire « j'ai créé quelque chose ». En fin de compte, tu as juste utilisé ce qui était là, puis tu as joué avec, tu as fait de quoi avec. C'est pas à toi. Puis il t'a pris ce qui était à Dieu pour faire, puis lui-même en plus, il te donne des idées pour faire de quoi avec. Fait que s'il y a de quoi qui se fait à quelque part, c'est parce que c'est Dieu qui t'a aidé, puis Dieu t'a emmené là. C'est sûr que Dieu n'a pas fait le mal comme cela. Aujourd'hui, on se sert de tout ce qui est là. Il y en a qui s'en sert pour faire du mal, mais c'est pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu voulait qu'on soit bien. C'est ça qui est à la nature de Dieu, il nous aime. Moi, si j'aurais une boîte de bébelles, là, puis avec toutes des poupées Barbie, puis des Ken, puis des toutes sortes des affaires, puis je décide, mettons, quand j'étais jeune, je décidais de jouer avec ça. J'étais comme celui qui était joué avec mes bébelles, puis je fais ce que je veux avec mes bébelles. Dieu, c'est la même affaire. Il nous a créés comme cela, pour qu'on lui appartienne, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut avec nous. C'est ça le but premier, pour qu'on soit à lui, volontairement, parce qu'au début, on n'était pas volontaire, là. On a réalisé des affaires pour revenir à lui, puis décider de se soumettre. Puis là, on veut qu'il fasse de quoi avec nous. C'est ça, que c'est la même affaire. On est comme ses bébelles. Il veut nous guider, nous diriger, nous conduire, puis il veut même en élever de ces bébelles-là pour qu'ils soient bien vus devant les autres. Il veut amener à la gloire beaucoup de fils. Ça, c'est dans son plan d'amener certaines de ses babelles dans une position extraordinaire, qu'on ne créera pas ça, mais qu'on soit rendu là. On va le croire parce qu'on est là, mais je dis ça de même comme une expression que c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dans Jérémie 32, le verset 17, il nous parle de son autorité parce qu'il est le Créateur. Il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Quand le gars s'est exprimé, là, ce prophète-là, Il reconnaissait que c'est lui, Dieu, qui a tout créé. Puis que Dieu devait recevoir ce qu'il lui est dû. C'est ça que... Puis tu peux, il n'y a rien qui est étonnant de sa part. Quand tu vois tout ce qu'il a fait déjà, là, tu regardes les étoiles. C'est pour nous, là, c'est impossible d'atteindre ça. Lui est encore plus grand que tout ça. Il tient tout ça dans sa main. On a affaire avec le... On est devant le Dieu tout-puissant, le Créateur, l'Être suprême. Tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 26, ça dit, « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » La parole de Dieu déclare que dans le royaume terrestre, il n'y a qu'un chef suprême. Dans le royaume terrestre, tout à l'heure je parlais du royaume des cieux, tous les êtres se fléchissent le genou devant lui, sauf ceux qui se sont rebellés. Mais ça dit aussi que le Dieu, qui est le chef du royaume des cieux, est un chef suprême sur cette terre. Même si les gens ne l'ont pas accepté, ou ne l'ont pas reconnu, ou ne lui ont pas donné la gloire qui lui revient, il est quand même si le monde ne veut pas l'admettre, que c'est le propriétaire, ou que c'est le créateur, il est là pareil, puis il va avoir pareil un jour à rendre compte à Dieu, puis à fléchir les genoux devant ce Dieu-là. Ils n'auront pas le choix. Mais il est quand même le chef suprême de tout ce qu'il y a ici, parce que ça lui appartient. Sauf qu'il y en a, Dieu, dans son plan, il a laissé le monde libre, puis il y en a qui prennent ce qui est ici, puis ils veulent en profiter, puis ils se foutent de ce que Dieu a dit. Mais il est quand même le chef suprême qui va faire rendre des comptes à la fin à tout le monde. Dieu, c'est lui qui règne sur tous les hommes. On va voir quelques versets qui nous parlent de son action souveraine sur cette terre, malgré que le monde ne l'accepte pas comme roi, comme seigneur ou comme le créateur. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 6, « L'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en sa main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? » Il n'y a pas un royaume, il n'y a pas un autre royaume, même le royaume des ténèbres ou les royaumes terrestres. Ils vont s'essayer. Ils vont s'essayer de résister contre Dieu, puis ils vont tous être anéantis au retour de Jésus par l'éclat de son avènement, puis par le feu qui va sortir de sa bouche. Il n'y a personne qui peut résister à la puissance de Dieu. Aucun autre roi, aucun royaume. Il y a Dieu, il y a toute autorité, il y a tout pouvoir, puis il règne sur cette terre, même si les gens s'en rendent pas compte. Il agit, là, puis il incline le cœur des rois, que ça dit dans un verset. Puis il va chercher un roi, puis il emmène faire la guerre à un autre roi, puis c'est dans le plan de Dieu, puis c'est lui qui suscite des choses comme cela. C'est lui qui suscite des moments de paix, puis des moments de où ce qui permet que les rébellions se fassent, mais dans son plan, il mène l'histoire. Puis il a été vu d'avance, cette histoire-là, dans sa pensée. Il a tout vu la fin de l'histoire. Puis il l'a annoncé d'avance. Il y a plein de choses qu'il a annoncées d'avance qui vont s'accomplir exactement comme lui a décidé. C'est un Dieu-là, il est tout puissant. Fait qu'on est aussi bien fléchés tout de suite les genoux devant lui. Parce que, mais qu'on arrive l'autre bord, qui pourra résister? Personne. La Bible affirme que c'est Dieu qui a établi et aboli le règne de tous les hommes. Il l'a dit à plus qu'une fois, mais je vais vous lire le passage dans Daniel au chapitre 4, le verset 32, en parlant à Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar, il était le roi humain du royaume qui régnait sur toute la terre de l'époque. Lui s'est vanté, mané, dit par mon bras puissant, j'ai assujetti tous les royaumes, parce qu'il a fait la guerre partout, puis tout le monde a tombé comme sous sa domination, puis là, ça lui a monté à la tête. Puis là, il est averti par Dieu. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu donne la domination ou le fait d'être au pouvoir, Dieu le donne à qui il lui plaît. C'est lui qui élève, c'est lui qui a amené Nebuchadnezzar à être élevé, puis c'est lui qui l'a rabaissé aussi. Parce qu'il a dit, pendant 7 ans, tu vas manger de l'arbre, puis tu vas perdre la raison, jusqu'à temps que tu reviennes à la raison, puis tu dis, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. La même chose que Pilate, Jésus, quand il a dit à Pilate, il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Si un humain rentre au pouvoir quelque part, c'est parce que c'est Dieu qui l'a placé là, chrétien ou pas. Puis à la fin, il va faire rendre compte à chacun de la manière qu'il a administré ses affaires. Si Dieu a placé un premier ministre ou un président ou un pharaon quelque part, c'est lui qui a décidé de le mettre là. Puis c'est lui qui peut décider de l'enlever de là, puis d'en remettre un autre. Puis c'est lui qui manipule les grandes lignes de la vie. Il règne sur la terre. Sa puissance est infinie. Il n'y a rien qui lui est impossible. S'il veut, demain matin, il met à cœur à Trudeau de me verser un chèque $1 million. S'il veut, demain matin, Trudeau va me signer un chèque, va me donner $1 million. C'est pour ça que je dis ça, que Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. C'est lui qui mène, puis c'est lui qu'on sert. Gloire à Dieu. Un autre passage pour parler un peu de la même idée encore. Non, ça c'est, je change d'idée. Là, on arrive sur le côté, ouais, mais Dieu, il a établi les humains sur la terre. Parce que, tu vois dans Genèse, chapitre 1, verset 28, que Dieu a béni Adam et Ève, puis il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons, puis sur les oiseaux et sur tout animal. Les humains avaient reçu une autorité comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec tout ce que Dieu a créé. C'est vrai. Les humains ont cette autorité-là au-dessus de tout ce qui a été établi sur cette terre. Puis ça fait partie du plan de Dieu de donner son autorité, de son autorité aux personnes, aux gens, pour que les gens administrent les choses que Dieu a mises à leur disposition. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les hommes appartiennent à Dieu parce que Dieu en est le créateur. Fait que Dieu peut agir comme qu'il veut à travers d'une personne, même si la personne a atteint une certaine autorité. Même si Dieu l'avait placé en autorité sur certaines choses de cette vie, Dieu a encore le pouvoir de mettre des idées dans sa tête puis de pouvoir changer l'orientation de ces personnes-là pour les amener à faire ce que Dieu a préparé. Dieu y mène, parce qu'il est le propriétaire, même si la personne n'est pas son disciple, même si la personne n'a pas fléchi le genou devant Dieu, Dieu a encore le contrôle, s'il veut, sur n'importe qui. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 21-24, ça nous dit, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Parce que souvent, on voit une personne qui est en autorité, elle règne, puis là, on est fier ou on est abasourdi de cette personne-là puis ses exploits, puis on tombe à genoux devant lui. Le monde font ça. Le monde font ça. Il se tombe à genoux devant d'autres hommes. Mais cet homme-là, s'il était placé là avec ses capacités-là, c'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'il n'y a pas une capacité qu'un humain a sur la terre qui n'a pas été mis là par Dieu. Dieu avait donné l'intelligence d'être capable de régner sur un pays, puis il a donné aussi la volonté, puis il l'a formé pour ça, puis il l'emmène là, même s'il n'est pas chrétien. Puis Dieu peut y faire pour le débarquer aussi, c'est lui qui décide. Puis là, il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc, tout appartient à Dieu. Puis il peut faire ce qu'il veut avec n'importe quoi sur la planète. C'est à lui. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Puis rien n'est impossible à ce Dieu-là qui règne dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu. Dieu, il a le pouvoir de vie ou de mort sur toute sa création. Même si les gens font pas partie de son royaume, ou même si les gens font partie de son royaume, Dieu a le pouvoir de vie ou de mort quand qu'il veut, comme qu'il veut, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Dieu, il fixe les temps. Regardez bien dans Genèse 6-7, quand Dieu a décidé d'exterminer la planète en entier, il l'a fait, puis il s'est pas gêné, puis il n'a pas de compte à rendre à personne. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Dieu l'a-tu fait? Il a détruit la planète par le déluge. Il a décidé de sauver Noé et sa famille. C'est lui qui a décidé, il aurait pu même toutes les exterminer pour prendre un autre badge de terre, puis en refaire un autre Adam, puis un autre Ève. Il aurait pu repartir ça comme qu'il veut. C'est lui qui a parti ça comme qu'il voulait. Fait qu'en tant que propriétaire, il a le droit de vie ou de mort sur l'humanité en entier, que ce soit de ses serviteurs ou non. Puis il l'a fait. Il a établi des jugements dans les temps, dans l'histoire, des jugements comme lui l'a voulu, puis il a frappé des royaumes terrestres comme qu'il l'a voulu, puis il a relevé d'autres royaumes, il a, même des royaumes païens. Il a, tu vois que dans l'histoire, comme par exemple Babylone, ça en est une belle histoire, c'est Dieu qui a amené Babylone à être en contrôle de tout, puis c'est Dieu qui a amené, Dieu l'appelait même son serviteur. Il faisait ce que Dieu voulait, puis Dieu avait prévu qu'il servirait de Babylone pour punir le peuple juif. Puis il s'en est servi, puis ils ont été déportés, puis Dieu a dit quand même la durée du temps que c'était pour durer. Il a dit ça durera 70 ans, puis au bout de 70 ans, Daniel a prié, puis tout s'est encore ouvert, puis là, ils ont commencé à revenir dans leur pays, puis les permissions des rois, du roi de Babylone, puis aussi des Mèdes et des Perses. Parce que c'est les Mèdes des Perses qui avaient renversé Babylone, puis c'est le roi Cyrus, roi de Perse, a redonné des droits aux Juifs de rebâtir la muraille de Jérusalem, puis de rebâtir la ville. Il a même fourni ce que ça prenait pour la bâtir. Il y a du monde qui s'est opposé, ils ont eu des protections. Ça a eu beaucoup de combats pour la reconstruction, mais finalement, la ville a été reconstruite. Puis Dieu, autant qu'il a fait que les Juifs soient déportés, mais Dieu a fait aussi que les Juifs ont retourné après le temps fixé que Dieu avait décidé. Puis il n'y a rien qui peut empêcher ce que Dieu a décidé, à moins qu'il change d'idée. Des fois, on dit, « Ah, mais Dieu change pas d'idée, Dieu se repent pas de son appel. » Il y a des exceptions. Parce qu'il s'est repenti d'avoir créé la terre, puis il a détruit la terre. Puis il s'est repenti d'avoir mis Saül, qui était roi d'Israël, puis il a débarqué de là. Il s'est repenti aussi des descendants d'Aaron, qui étaient sacrificateurs, puis les fils du sacrificateur Élie, qui était comme rebelle, insouciant, il servait l'Éternel en piquant, quand le monde amenait des animaux, il prenait une portion pour eux autres personnels en premier, avant même d'avoir offert les choses à Dieu. Puis il faisait plein de choses pour faire du mal. Dieu les a éliminés, puis il a enlevé la descendance qui était dans cette famille-là, puis il a transféré ça, parce qu'il s'est repenti de l'appel qu'il avait mis sur cette famille pour être des sacrificateurs. Dieu tasse des gens qui étaient dus pour être bénis, puis par rapport à leur mauvaise conduite, ils se font tasser. Puis c'était la même chose pour le prophète Balaam, qui est un prophète de Dieu, mais il faisait aussi des incantations. Mais puis ils ont induit en erreur le peuple d'Israël, qu'on voit ça dans l'Apocalypse. Mais là, on ne parle pas de... C'est pour dire que Dieu peut changer d'idée sur des affaires. En général, il ne change pas d'idée, mais il peut changer d'idée, puis Dieu a fait des changements dans la vie comme lui le décide, tout dépendant comment c'est rendu. Fait qu'en général, toutes les promesses, tout ce qui a été fait dans la Bible comme annonce, vont toutes s'accomplir. Mais les affaires comme ne sont pas annoncées, là, sont des choses personnelles, peut-être, ça, il peut y avoir des modifications au cours de l'histoire selon où ce qu'on est rendu. C'est le Créateur qui fixe les temps et les moments de ses jugements, puis les changements de cette vie. C'est lui qui règne, c'est à lui, puis c'est lui qui fixe les temps. Dans Apocalypse chapitre 10, versets 6 et 7, ça nous parle que Dieu est en train de parler. Il dit, il jurera par ce... Non, c'est l'ange. Quand j'ai oublié d'écrire, de lire le verset avant, je m'en rappelle plus. Ça dit, « Il jura par celui qui vaut au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Quand Dieu annonce quelque chose, ça va se faire comme lui l'a annoncé, même si tout a de l'air contraire. C'est lui qui mène des temps puis des moments, comme l'histoire de dire que Jésus revient. Jésus a dit, je ne sais pas c'est quand que ça va être la date de son retour, mais il a dit que le Père seul qu'il sait. Dieu sait tout, selon qu'il l'a fixé dans son esprit. C'est sûr que quand Jésus est ressuscité puis il est remonté auprès de son Père, là, il a su toutes les affaires. Mais en attendant, quand il était sur la terre, il ne savait pas tout, Jésus. Il n'avait pas tout pouvoir non plus. Il l'a eu après sa résurrection. Mais il vivait dans un corps comme nous, puis il était limité. Mais Dieu décide quand qu'une chose arrive, puis comme qu'elle doit arriver, c'est lui qui décide. Les grandes lignes sont écrites, puis même des choses pour notre vie. Dieu a revendiqué ses droits à plusieurs reprises en tant que créateur et propriétaire, parce qu'il y en a beaucoup depuis le début de la création que les hommes s'obstinent. Autant que le diable, il avait la liberté de se rebeller, puis il s'est obstiné contre Dieu pour faire ça à sa manière. Mais les humains, ils font tout ça aussi, la majorité. Ils font leur vie à leur manière. Ils ne veulent pas se soumettre à une autorité, à l'autorité de ce Dieu-là. Mais Dieu a souvent parlé par les prophètes pour ramener le monde à la raison, pour ramener les gens à comprendre que c'est Dieu qui est le Créateur, puis c'est à lui les choses. Tout le monde devra le servir, lui. Dans Isaïe 42, verset 5, ça dit, « Ainsi parle Dieu l'Éternel. » Qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Puis dans Isaïe 45, 12, il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Fait que Dieu, à plusieurs reprises, a envoyé ses prophètes pour ramener le monde à dire, réalisez, là, c'est Dieu qui a tout créé. Il veut que tout le monde le sache, que c'est lui le Créateur, puis c'est lui qu'on va rencontrer à la fin de notre vie, puis devant lequel on va passer, puis qu'on va avoir à rendre compte. C'est lui qui a tout créé. Il voulait ramener le monde à le suivre, à le servir, à rentrer dans son royaume, parce que le royaume, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu existait avant, puis les humains ont une invitation à y entrer. Tu viens pas au monde dans le royaume. Tu rentres à un moment donné. On va le voir un peu plus loin dans l'étude. Dieu maintient et maintiendra son autorité parce qu'il est éternel. Personne ne peut le remplacer. Dans Daniel 4, 3, il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Et sa domination, le fait qu'il règne sur les gens, subsiste de génération en génération. C'est un règne éternel. Ça passera pas à un autre. Ça va rester à Dieu. Dieu a tout créé, puis il règne depuis le début, puis il va régner jusqu'à après la fin. Même quand le règne des hommes disparaîtrait, Dieu siège encore sur son trône éternellement. Parce que c'est arrivé que la terre a été détruite, puis le règne des hommes est anéanti au déluge. Ça va revenir encore que le règne des hommes présents va être fini. Ça va être Jésus, ça va être Dieu qui va régner sur cette terre. Dans le psaume 29, le verset 10, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Même s'il y aurait le déluge à la terre, il règne éternellement. Il n'y aura plus de monde sur la planète n'existera plus, mais il va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis il va régner encore éternellement. Le Dieu du royaume de Dieu, le royaume des cieux, est éternel. Le diable, il a essayé, lui, de prendre la place de Dieu. Il a essayé de montrer, même des humains, qu'on voit dans Isaïe 14, que c'est un homme, mais il disait qu'il va monter son royaume jusqu'à la hauteur de Dieu, puis même au-dessus de la montagne de Dieu. Personne ne peut égaler Dieu, puis personne ne peut le remplacer. Ils sont précipités. Lui était précipité dans le séjour des morts, puis Satan, lui, va être précipité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il a pensé pouvoir atteindre Dieu, puis prendre la place de Dieu. Il va tout perdre, même sa liberté d'être dans la présence de Dieu. Puis je finis avec un dernier verset. Ce roi mérite la gloire et l'honneur pour l'éternité. Dans 1 Timothée 1, 17, ça dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». C'est ce Dieu-là qu'on veut servir. Le Dieu qui s'est révélé dans Abraham, Isaac, Jacob, il s'est révélé, on va voir ça dans la suite, comment il s'est révélé. Mais c'est ce Dieu-là qu'on sert, qu'on prie. Chaque fois qu'on prie, c'est à lui qu'on s'adresse. Il a tout pouvoir, il n'y a rien qui lui est impossible. Il peut incliner le cœur des rois en notre faveur. Servons-le, aimons-le, marchons avec lui, puis un jour, il va venir nous chercher. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est merveilleuse, qui nous révèle qui tu es et tout ce que tu fais. Seigneur, notre pensée est très limitée pour comprendre tout ce que tu as fait, mais on reconnaît que tu es Dieu, tu es notre Dieu. C'est toi qu'on veut servir. Tu t'es révélé à travers Jésus, puis on veut te rendre la gloire qui te revient. On veut te dire merci pour tout. On veut te servir, marcher dans tes voies, faire ta volonté. Continue à te révéler à chacun de nous, Seigneur, qu'on puisse te connaître davantage, approfondir qui tu es, puis qu'on puisse toujours être en admiration puis être en amour avec toi, Seigneur. Merci pour tout. On veut te rendre la gloire et que tu reviens dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.